Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Le député Clément Kankou a saisi la Cour constitutionnelle la semaine dernière pour faire annuler le vote au Sénat de la loi répartissant les sièges aux élections municipales, locales et urbaines. Le président du mouvement pour les renouveaux cite les articles 116 de la Constitution et 75 du Sénat qui, à son avis, ont été violés et pense que la session extraordinaire du 11 août au Sénat n'aurait pas dû être convoquée. Certains observateurs jugent fondés les plaidoyers de Clément Kankou, estimant que ces contentieux devra être vidé pour mieux poursuivre les processus électoraux. Une autre opinion estime par contre que cette démarche risque de retarder la tenue de ces élections prévues dans le calendrier global publié par la CENI si la Cour constitutionnelle venait annuler le vote du Sénat. Qu'en pensez-vous? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Guman Zangou. Julie Abongonda assure la réalisation et Pierrot et la Mélie vous la présente sous la supervision de Léonard Molamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès, un parti politique de l'opposition avec qui nous allons nous échanger autour de cette question. Et bien avant d'aller plus loin, nous avons beaucoup d'auditeurs qui se sont inscrits, 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Emmanuel Ilunga, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation des paroles aux auditeurs et Radio Capi.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie particulièrement et je remercie surtout les bons dieux de nous avoir donné cette occasion de pouvoir s'exprimer devant notre public.
Merci. Nous allons d'abord écouter les auditeurs. Notre sensible, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci de vous être joint à nous ce matin pour cet échange. Bonjour, maître sensible.
Bonjour, monsieur Pirot. Bonjour à notre invité. Et bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio au papier.
Voilà, pour vous, il y a deux points de vue. Il y en a qui pensent que le plaidoyer de Clément Kankou, il est fondé. Les autres pensent plutôt que, quelle que soit l'issue, et tout cela risque de préjudicier le calendrier électoral qui déjà a connu beaucoup des difficultés, des péripéties. Quel est votre point de vue?
Oui, moi je suis favorable à cette saisine de la Cour constitutionnelle par M. Clément Kankou. Pour faire annuler les votes au Sénat de la loi sur la répartition des sièges aux élections locales, municipales et urbaines, suite à la violation des articles 116 comme il a dit de la Constitution et la violation aussi de l'article 75 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Donc, M. Gire, dans l'article 116, M. Pierrot, dans l'article 116, il dit ceci. Chaque chambre de parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé. À la demande soit du bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Et au plus tard, 30 jours à compter de la date du début de cette session. Mais l'ordre du jour a été épuisé. Les sénateurs avaient voté. Quand les mêmes avaient voté à 47, il y a ceux-là qui se sont abstenus. Il y a eu deux qui ont voté non. Et la loi a été annulée, a été restée. Alors moi, je ne comprends pas avec quel empressement que le gouvernement a imposé le Sénat pour revenir encore à la session extraordinaire, avoir une deuxième session qui doit commencer le 15 septembre pour tenir cette session. C'est à ce niveau-là qu'a situé l'illégalité.
Oui, mais parce que vous avez évoqué, maître Sonville, vous avez évoqué les cas de l'illégalité, laissons le temps, le travail à la Cour constitutionnelle, parce que quand le sujet est déjà au niveau de la justice, à la justice de se prononcer, voir dans quelle mesure ça peut être possible. Mais revenons maintenant sur le plan politique, les conséquences, parce que là, si je regarde les calendriers publiés par la CENI, tel qu'il est gelé ici dans ces
studio, on a déjà beaucoup de difficultés par rapport à ces élections locales, parce qu'il était prévu qu'on devait publier les listes définitives des candidats conseillers des communes et des secteurs. C'était du 28 juillet au 28 juillet, bien sûr, entre le mois de juillet et le mois d'août, mais là, rien n'a été fait. Et pour vous, quelle que soit l'issue de tout cela, comment vous retrouvez l'impact sur le processus électoral lui-même, tout en laissant à la Cour constitutionnelle le travail de pouvoir se prononcer sur la requête de Clément Kankou?
Oui, monsieur Pirot, je vous laisse ici, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Si on peut revenir aussi à l'article 139, la loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les 30 jours de la saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Vous voyez que la Cour constitutionnelle, à tout le moment, a tout le temps de répondre à monsieur Clément Kankou pour que cette loi soit promulguée par le chef de l'État. Par rapport maintenant au calendrier, monsieur Pierre, je ne sais jamais dit. Le calendrier est irréaliste. Je ne sais pas par quelle magie, même si aujourd'hui la Cour constitutionnelle faisait passer cette loi-là. Mais le temps, est-ce que la CENI, d'après son calendrier, la CENI a le temps de faire organiser ces élections? Moi, j'estime qu'il ne faudrait pas aller d'une manière biaisée. Il faudrait qu'il y ait des élections crédibles et transparentes pour que tout le monde soit, pour que la soif de tout le monde soit épanchée par rapport à ceux-là qui vont nous gouverner, en commençant par la base. J'estime que ces élections sont constitutionnelles, mais néanmoins, par rapport au temps, par rapport à l'irréalisme de ce calendrier, moi j'estime que ces élections ne peuvent être que reportées après les élections législatives et présidentielles, et soit provinciales, pour qu'il y ait transparence, pour qu'il n'y ait pas de remords, pour que le malentendu soit dissipé. Parce que si on y allait à la fête de cette grande vitesse, il peut toujours y avoir des procès d'intention. Or, pour tous les Congolais, pour nous tous les Congolais, nous voulons que ce pays aille de l'avant. Ce pays, puisqu'on est pour la paix, et que les élections se passent d'une manière transparente. Or, à ce moment, M. Pierrot, il y a d'abord le problème de l'argent. Le problème de l'argent, on dit que l'argent n'a jamais été décaissé. Sur l'argent que la CENI avait demandé, 524 millions, il n'y a que 647 millions qui ont été décaissés, jusqu'à preuve du contraire. De ce côté-là, le gouvernement n'a pas cette bonne volonté politique de mettre à disposition de cette CENI des moyens conséquents pour organiser ces élections à bas échelle. Alors, du fait que ce gouvernement n'a pas cette volonté, qu'on puisse tout simplement reporter ces élections après 2016, et j'estime que le ciel ne tombera pas. Puisque nous devons travailler, les élections provinciales, il y a la liste des élus qui sont déjà publiées. Mais pourquoi maintenant nous attendre toujours au niveau de cette loi de réflexion du décès par rapport aux élections communales et tout ça? Qu'on puisse respecter ça. Et ça, la CENI est appelée à siéger, puisque ça dépend des prérogatives de cette CENI. Cette CENI doit aider à trouver sa neutralité et travailler par rapport au temps et par rapport aussi aux objectifs auxquels elle est assujettie. Vous comprenez un peu, M. Pierrot.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous estimez que, vu il y a la contrainte de temps qui se pose, il y a le problème des financements, le respect des calendriers lui-même, et tout ça devient difficile. Et vous estimez là qu'il faudrait un consensus autour de ces élections locales, municipales, et tout en attendant, bien sûr, la liberté de la Cour de se prononcer sur ce qui a été initié comme démarche par Clément Kankou. Merci beaucoup, Maître Sonville. On retrouve ici à Kinshasa. Maître Omar, merci de vous rejoindre à nous dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamège, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et nous savons qu'on ne peut pas faire des commentaires aussi longtemps qu'il y ait une affaire est examinée au niveau de la justice. C'est à la justice de pouvoir se prononcer, mais nous regardons les conséquences politiques de toutes ces démarches par rapport au respect de ces calendriers, la tenue de ces élections, parce qu'il y a déjà un retard, il faudrait le reconnaître par rapport au calendrier tel qu'il a été publié par la CENI en ce qui concerne ces élections locales, municipales, communales. Alors, comment on peut arriver à s'en sortir dans ces conditions, Maître Omar?
Merci beaucoup, Pierrot. Je voudrais argumenter rapidement mon propos en des axes sur le plan juridique et enfin sur le plan politique. Sur le plan juridique, je pense, Pierrot, que sur pied de l'article 62, alinéa 2 de notre loi fondamentale, j'ai cité la Constitution, il est permis à toute personne sans physique et morale de saisir la Cour. À ce titre, je pense que M. Kemakanko n'a fait que respecter la Constitution. Tout autre Congolais pouvait le faire. Deuxièmement, toujours sur le plan juridique, est-ce que l'Assemblée extraordinaire convoquée par le Sénat a été illégale ou inconstitutionnelle? Moi, je pense que la loi ne se limite pas à la lettre. Il faut plutôt percevoir son esprit. Parce que lorsqu'un texte pose des problèmes d'interprétation, la logique juridique voudrait qu'on puisse chercher sa rage sur les vices, c'est-à-dire quelle a été l'intention réelle de celui qui a légiféré. Si vous lisez l'article 116, on dit que chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président, vous connaissez la suite. Mais si vous lisez bien cet article tiré à la main de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le nombre de fois où la session doit être convoquée n'est pas précisé. Et il y a un principe en droit qui dit, lorsque la loi n'a pas distingué, nous n'avons pas le droit, nous citoyens, de distinguer. La loi, même si elle est mauvaise, c'est la loi. Au nom de cette non-limitation, moi je pense que la session a été valable et juridiquement fondée. Mais si on lit les règlements intérieurs, que je n'ai pas sur place ici, on reprend la même chose. On dit, les sénats peuvent être convoqués à session extraordinaire. Mais on ne précise pas le nombre de fois que cela peut être convoqué. Donc, moi je pense que ceux qui pensent qu'il y a une inconstitutionnalité n'ont pas assez d'arguments. Et s'il faut aller loin, il faut faire ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire, lorsqu'un texte pose problème, je demanderai à tous ceux qui pensent qu'il y a une violation de lire même les travaux préparatoires et au Parlement, de consulter même les gens qui ont légiféré, de lire même l'exposé des motifs. Si vous voyez tous ces éléments qu'il permet d'interpréter, à mon avis, c'est un point de vue, il n'y a pas de violation parce que l'article 116 ainsi que 705 de la loi sur le Sénat n'a pas précisé combien de fois une session sera prise. Mais puisqu'il y a maintenant un débat, nous nous référons maintenant à la Cour constitutionnelle qui doit trancher. Et sur le plan politique, je finis par là. Moi, je pense que demander au Sénat de revoir ou annuler son acte législatif, c'est remettre en cause le processus qui est salutaire pour la RDC. D'ailleurs, l'article 160 de la Constitution dit déjà, a déjà prévu ce mécanisme. Toute loi avant d'être promulguée passe par la Cour constitutionnelle. Et il peut aussi arriver que la Cour dise qu'elle est inconstitutionnelle parce qu'en droit, ce n'est pas comme les mathématiques où un plus un égale 2. Chaque juriste a sa façon de voir les choses. Mais si cela arrive que la Cour déclare inconstitutionnelle cette loi, moi je pense que lorsque la politique se bat avec les droits, il faut que la politique l'emporte. Parce que nous avons des élections qui prennent à l'horizon. Nous retarder sur le juridisme qui ne nous amène à rien enfermera encore ce temps le plus longtemps d'aller passer. Voilà pourquoi je soutiens et je fais aller l'idée du dialogue. Il est important, tirer la magie, que nous comprenions que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'écueils, beaucoup d'anicos qui empêchent le déroulement heureux du procès électoral. La solution salvatrice à cet instant, c'est que tout opérateur politique, toute organisation de société civile puisse se mettre autour d'une table. Être conscient des réalités, des difficultés qui empêchent l'exécution exacte de ces calendriers et prendre des mesures appropriées pour que ne serait-ce que les élections présidentielles et celles législatives puissent être organisées. À l'impossible, les pleuraux, ni n'est tenu. Si la Cour constitutionnelle fait passer l'acte, gloire à Dieu, mais en ce jour, à part cette loi de répartition des sièges, il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent à dire que aujourd'hui, le calendrier est menacé. La solution salvatrice passe par le dialogue. On doit se mettre sur table, être conscient que beaucoup de faits empêchent, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces calendriers. Il faut qu'on se parle, ce n'est pas pour partager les pouvoirs, ce n'est pas pour être partisan, mais c'est pour l'intérêt sanitaire de la nation. Voilà sur le plan politique ce que je propose.
Merci, Maître Omar. Vous estimez qu'il y a là un intérêt politique par rapport au respect du calendrier et même à la réussite du processus lui-même. Et dans ces conditions, vous estimez, Maître Omar, que le dialogue est nécessaire, pas pour se partager le pouvoir, mais pour qu'on se regarde en face, qu'on dise, voilà, on est peut-être dans l'impossibilité de respecter le calendrier et d'affronter les événements tels qu'ils se présentent. Alors, qu'est-ce qui doit être privilégié au-delà de tout ce qui peut être comme bataille juridique sur la loi. Merci beaucoup, Maître Omar. Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de Ilitouri. Bonjour, Sylvain. Sylvain, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les invités, toutes les invités.
Bon, voilà. Vous avez suivi les maîtres en son ville, maître Omar. Vous savez qu'au-delà des batailles juridiques, maître Omar insiste sur l'intérêt politique qui doit être privilégié par la classe politique dans les discussions pour dire qu'on doit sauver le processus en abordant les questions de fond, par exemple sur ces calendriers qu'on ne saura peut-être pas être à mesure de pouvoir respecter. Quel est votre point de vue, Sylvain?
Bien, je voudrais faire peut-être revenir les propos du premier auditeur, et puis peut-être je voudrais aussi prendre la même position que l'honorable Tancourt dans sa demande à la Cour constitutionnelle de vérifier la constitutionnalité de l'acte posé dernièrement par le Sénat. Et je voudrais aussi que les gens comprennent que le débat revêt double sens. Ça veut dire qu'il y a une dimension juridique, mais aussi une dimension politique. Et ici, je voudrais juxtaposer la dimension juridique et la dimension politique. Puisque nous sommes dans un processus épineux, celui d'organiser les élections qui vont mettre en place les institutions républicaines. Je voudrais aussi faire comprendre quelque chose. C'est quoi? Ça veut dire que la bonne pratique politique voudrait que les actes des acteurs politiques ne s'éloignent pas des prescrits de la Constitution qui est le texte unitaire de tout État qui se veut démocratique et responsable. Et dans ce sens-là, nous nous mettons d'accord sur la violation pure et simple de la Constitution du Congo par la deuxième session extraordinaire qui venait d'être convoquée par le Sénat. Et c'est regrettable. Et c'est regrettable pourtant, puisqu'il faut que les gens remarquent une chose. Le Sénat est une institution extrêmement politique. Et puisque la Constitution dit à l'approchement du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui prend la tête du pays, alors il faut qu'on évite déjà la majorité dans la gestion de la chef de l'État. Ça, c'est de un. De deux, monsieur Pierrot, je suis d'accord avec ce qu'il pense. Et tout de suite, il va falloir privilégier l'aspect politique. Mais il ne faut pas générer la République des bananes. Puisque là, nous risquons de mettre quelque chose de ce contraire. Vous avez lu l'article 136 de la Constitution. Si le Sénat a besoin d'une session extraordinaire, son règlement d'ordre intérieur est défini. Il ne faut pas tourner les choses. Vous avez suivi le concept, l'insuffisance d'un nombre de voix à la première session extraordinaire du Sénat. Vous avez suivi ce débat, M. Pierrot. Et c'est ridicule pour nous, les Congolais. Je pense, comme un citoyen responsable, qu'il va falloir renouer avec le respect des prescrits de la Constitution congolaise pour établir un État véritablement démocratique. Le processus électoral dans lequel nous sommes ne peut pas être émané du sentiment de certains individus, puisque cela dépendra de la vie de l'État congolais. Je suis de ceux qui pensent que tout de suite, hormis le Sénat, que toutes les élections de la République, y compris la présidence, puissent d'abord renouer confiance avec la Constitution. Puisque c'est le socle, c'est le texte génitaire de l'État congolais.
Merci.
Le cycle électoral ne va pas obliger la violation des prescrits constitutionnels. Pour moi, la Cour constitutionnelle doit travailler sur ce texte et doit aussi remettre le cycle ou le processus électoral dans le rail constitutionnel. Voilà ma position.
Merci beaucoup, Sylvain. L'aspect politique ne doit pas amener les gens à ne pas respecter les prescrits de la Constitution. Et là, vous avez invité chaque personne à pouvoir respecter la Constitution pour remettre les cycles électoraux dans les prescrits pour qu'ils puissent réussir, parce que c'est là aussi la force même de l'État. Alors, nous allons terminer cette première partie des auditeurs avec vous, Michel. Vous êtes à Matadi dans les Congo central et on va revenir à ces studios pour que notre invité puisse aussi s'exprimer par rapport à tous vos points de vue. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà. Vous avez suivi Sylvain qui dit on ne doit pas sacrifier le respect de la Constitution pour privilégier l'intérêt, par exemple, politique dans ces débats autour du processus, comment il doit être reçu. Tout à l'heure, Maître Omar disait c'est pourquoi pour lui, il pense qu'il est nécessaire que les gens discutent, parce que là, on va être buté avec toutes les tractations au respect du calendrier. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça, Michel?
Oui, moi je crois qu'il faut aller en hobby. Vous savez, nous avons l'impression que nous devons parler de la vérité. Et tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons l'impression comme si il y a des gens qui se battent, non pas pour l'intérêt public, mais il y a des gens qui se battent pour des postes. Des gens se battent pour s'accaparer, pour avoir des postes. Et c'est ce combat maintenant. Et nous sommes en train de vivre. Parce que tout ce qui se fait maintenant, ce n'est pas pour que le Congo gagne, mais c'est pour que les individus gagnent. Or, dans un pays, si nous nous battons pour des individus, nous risquons que nous puissions vivre les pires. Mon frère, nous avons une loi qui nous gère tous. C'est la Constitution. Vous savez, si nous allons annuler la Constitution, nul n'est au-dessus de cette Constitution. Et nous devons tous respecter. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe, même dans nos médias, les camps de la majorité donnent déjà une idée. Mais moi, je crois que si nous devons résoudre les problèmes de la République à qui nous avons travaillé. Non, je crois lorsqu'on est chef de l'État, lorsque nous avons élu un chef de l'État, c'est pour qu'il travaille. C'est dans ses droits. Et le président a travaillé. Et le travail que le président a fait, cela ne veut pas dire, c'est parce qu'il a travaillé, il doit encore amender les lois qui sont dans la Constitution. Non. Je pense que le président a travaillé, il a le droit aussi de se reposer. C'est ça le problème. Ne cherchons pas des choses de parti par là. Vous avez suivi des gens qui passent, c'est ce que je dis. Moi, je crois, ne sont les plus fatales. Il a une femme, il a une famille, il doit prendre soin de sa famille et il doit reposer. Et s'il doit se reposer, il faut qu'il sorte dans une porte et non pas à la fenêtre. Vous savez, mon frère, je vais vous dire une histoire. Si vous suivez des parties, bon, ça c'est l'histoire, parce que bon, nous ne citons pas les noms. Vous savez, à l'époque de Mobutu, lorsque Moussa venait, Mobutu était empressé pour aller à Outenika, dialoguer avec Moussa. Vous savez, parmi les gens qui n'ont pas voulu que Mobutu puisse aller rencontrer Moussa, il y a Yiti Mwadon. Si vous suivez, on fait ça parce qu'il faut l'histoire.
Oui, on ne va pas entrer dans les considérations personnelles. Michel, il y a quelque chose d'important que vous avez évoqué dans votre propos au-delà de l'histoire avec l'implication de qui a fait quoi, parce qu'on ne sera pas invité chacun à pouvoir se défendre dans cette émission. Mais je retiens au moins qu'il y a un propos important. Vous l'avez dit, dans toutes les démarches que les gens doivent faire, ils doivent viser l'intérêt du Congo pour que le Congo gagne et non pour que les individus gagnent. Alors, le souci que vous avez, Michel, c'est de voir les gens mener les démarches pour l'intérêt du pays, mais pas pour l'intérêt personnel ou bien pour les postes ou la conservation de postes. Mais le reste de qui a fait quoi dans le passé, on ne saura pas donner à chacun l'occasion de se défendre dans cette émission. Merci beaucoup, Michel. On retient qu'il faut que les gens considèrent l'intérêt du Congo, c'est ça dans votre propos. Maître Patient, vous êtes chef de garder la ligne. Nous allons revenir à vous. 081-890-6315.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Nous revenons à vous, Emmanuel Ilunga. Vous avez suivi le premier groupe de nos auditeurs. Les points de vue sont partagés, mais je retiens que dans le débat, plusieurs personnes sont revenues sur l'intérêt de respecter les textes de la Constitution, de discuter, de considérer l'intérêt du Congo. Michel l'a même dit, il faut que le Congo soit considéré dans tous les débats, dans tout ce que nous faisons. Votre réaction par rapport à tout ça?
Non, je pense qu'aujourd'hui, la population congolaise veut vraiment que les textes constitutionnels soient respectés et qu'on aille aux élections. Et que les élections, c'est un moment important pour un pays, pour une nation. Et le respect des textes constitutionnels sont aussi un moment important. Pourquoi nous, nous serons l'exception? Au jour d'aujourd'hui, on voit très bien que les gens se battent pour leurs propres intérêts, pour leur propre chapelle. Alors qu'ils devraient se battre pour la nation. Les hommes passent, la nation reste. C'est pourquoi, moi je soutiens énergiquement tous ceux qui pensent qu'aller aux élections, c'est une donne obligatoire. Et que le mandat présidentiel était de 5 ans. Nous allons arriver en 2016. Nous allons faire 5 ans du mandat présidentiel. Et je pense qu'à ce moment-là, nous devons passer à autre chose. Il faut savoir occuper le pouvoir, il faut également savoir le quitter, parce que nul n'est né au pouvoir, et il est important de passer toujours l'intérêt de la nation au-dessus de tous les intérêts partisans. Pour revenir maintenant aux réactions de nos quatre intervenants, ce que je retiens, ils ont souligné les problèmes de fond et les problèmes de forme. D'abord, la démarche de Clément Kanko. C'est une démarche tout à fait légitime, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la Constitution le permet, à quiconque peut le faire. Lui, il l'a fait en qualité de député national. Donc, sa démarche est tout à fait légitime. Parce que la session extraordinaire du Sénat, je dirais, cette loi pose un sérieux problème. Parce que c'est une loi où il y a des déséquilibres. Je vais parler simplement pour que nos compatriotes qui sont éparpillés dans notre pays puissent me comprendre. Je donne un exemple. Dans cette loi, les déséquilibres reposent où? Admettons, dans une circonscription à Kisangani, ou bien à Bunia, ou à Lubumbashi, ou en Mbujimayi. Vous avez une circonscription où vous avez 200 électeurs. On vous dit, vous devez avoir droit à 4 sénateurs. Dans une autre circonscription, vous avez 200 électeurs, les 200 vous donneront droit à 9 sénateurs. Pourquoi ces déséquilibres? Pourquoi ces déséquilibres? Donc c'est une loi qui pose déjà, dans le fond, un sérieux problème. Et revoir cette loi, ou ce soir à cette loi, c'est important pour permettre l'équilibre. Parce que tous les quatre ont parlé de l'équilibre au niveau de la nation. Notre pays est en déséquilibre. Tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, s'ils sont honnêtes et sincères avec eux-mêmes, ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas achevé la mission de pacifier le pays, la mission d'accorder du bonheur à notre population. Et donc, par conséquent, il faut avoir l'humilité, n'est-ce pas, de reconnaître ses limites et de passer la main à autre chose.
Les auditeurs reviennent sur la nécessité de discuter, parce que là, il faudrait que le débat juridique ne puisse pas déséquilibrer le calendrier électoral. Il y a même Maître Omar qui a insisté sur le fait que, pour lui, c'est impérieux que les gens discutent, que les gens dialoguent. Et les élections, c'est nécessaire, mais est-ce que, pensez-vous que dans ces conditions, avec le déséquilibre des lois, du calendrier, est-ce qu'on peut arriver vraiment à tenir ces élections sans que les gens aient un consensus autour de ce qui doit être fait?
C'est très bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que les gouvernements successifs qui nous ont gouvernés ont échoué. Parce qu'ils avaient un mandat, ils savaient pertinemment qu'au bout de 5 ans, il faut organiser les élections. Au jour d'aujourd'hui, la CENI, qui est l'organe technique qui permet d'organiser les élections, avait un budget voté depuis longtemps. Mais le budget de la CENI n'a touché que 8% sur son budget. 8%, c'est comme si on lui devait 100$, il ne touche que 8$ sur 100$. Comment voulez-vous que la CENI puisse travailler correctement et aller plus loin dans son travail pour permettre à notre pays, la République, de s'asseoir sur des bases saines? On sent très bien qu'il y a une très mauvaise volonté de faire en sorte que la CENI ne puisse pas être capable d'organiser les élections pour permettre justement des prolongations ou les glissements, comme on dit. Mais ce que les Congos veulent, nous voulons, les Congolais dans leur ensemble, y compris le problème du dialogue. Le dialogue, c'est pas mauvais. Mais on dialogue sur quoi? On va pas dialoguer sur des textes constitutionnels. Parce que les textes constitutionnels, ça se discute à l'Assemblée nationale. C'est pas
dans la rue que ça se discute, ou dans une salle où on associe tout le monde. Moi, je ne suis pas un élu, donc je ne peux pas les discuter officiellement sur des textes constitutionnels. S'il y a dialogue, nous allons discuter en ma qualité de président d'un parti politique, mais on ne discutera pas sur des textes constitutionnels, on discutera de comment on organise les élections. La faisabilité, comment on va aller aux élections avec de nouveaux candidats et comment on constitue les choses. C'est ça, les dialogues doivent pencher sur ça. Les dialogues ne peuvent pas pencher sur des textes que la Constitution a déjà votés par référendum depuis très longtemps.
Mais parce que tout le monde n'a pas la même perception, effectivement, du dialogue, mais les temps passent, le calendrier est là, on n'est pas en mesure déjà de respecter certaines échéances qu'on avait déjà décidées, les temps pressent d'un côté, la population, vous l'avez dit, les gens voudraient vraiment, comme le disait tout à l'heure Sylvain, qu'on arrive vraiment à avoir un processus qui n'est pas biaisé. C'est vrai qu'on n'a pas la même perception de la question du dialogue. Mais quelle est la responsabilité aujourd'hui au niveau de la classe politique, de la société civile pour permettre effectivement au pays de pouvoir cheminer dans un processus qui mette tout le monde d'accord?
Bon, la responsabilité, elle incombe au gouvernement, à la majorité. Et la majorité a fait du forcing en 2011 aux élections pour gagner, pour gouverner le Congo et l'amener vers une voie saine, vers la liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous reculons au lieu d'avancer. Et donc, c'est la première responsabilité qui repose sur eux, sur leurs épaules, parce que c'est à eux de rendre compte avec l'argent public, qu'ont-ils fait avec l'argent public. Les associations de droits de l'homme, ou la société civile, si vous voulez, elle a un travail d'alerte. C'est le travail qu'elle fait d'ailleurs très très bien. Elle a un travail d'alerte, de formation à la conscience populaire, pour que nos compatriotes puissent se réveiller et regarder en face comment leur avenir est en train de s'assombrir. Et donc, c'est pourquoi nous sommes très, très vigilants par rapport au processus, comment ça se passe. Et d'ailleurs, comme vous entendrez, moi j'ai lu les journaux hier, où le gouvernement va négocier avec un parti politique pour organiser le dialogue. Le dialogue doit concerner le Congo. S'il y a dialogue, ça doit avoir un assentiment populaire, c'est-à-dire la majorité de la population congolaise doit être d'accord pour apaiser les frustrations. Sinon, ça n'apaisera personne. Le Congo, ce n'est pas une propriété privée. Ce n'est pas une propriété privée qui appartient au gouvernement et à certains partis politiques. Non, le Congo nous appartient tous. Et quand il y a des tensions fortes, comme c'est le cas aujourd'hui, il est important que l'ensemble des Congolais puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur nation. Car les hommes passent et les pays restent. Oui. Ceux qui sont là aujourd'hui passeront, avec ou sans leur volonté. Les autres viendront.
Nous allons écouter Maître Patient qui est à Kinshasa, Joséphine à Boston, Olivier à Sikwit. Vous avez insisté sur le fait que quand il y a des tensions, quand les gens ne parviennent pas à voir l'avenir de là où ils vont, il faudrait que les gens discutent, que les gens se mettent autour d'une table. Et vous avez ajouté un élément, on ne doit pas discuter ou dialoguer autour des textes juridiques de ce que la Constitution a déjà prévu. C'est autour des questions politiques sur l'organisation des élections, de quelle manière on doit s'y prendre. Maître Patient, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur Gilles, bonjour aux auditeurs de la radio Papier et bonjour à notre invité.
Notre patient, c'est Pierrot qui est avec vous à ce moment. Vous avez suivi les uns et les autres notre invité. Nous avons dit la démarche au niveau de la Cour constitutionnelle, elle est légitime. On laisse à la justice de faire son travail, mais il y a des questions politiques qui se posent dans cette démarche. C'est comment on doit s'en sortir pour pouvoir respecter les calendriers et tenir les élections. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait, Maître Patient?
Oui, M. Pierrot, d'abord, je salue le courage de l'honorable Clément Tankou, qui est un député qui continue à garder sa crédibilité jusque-là. Par rapport à cette plaidoirie, je voudrais soulever deux aspects. Il y a un aspect politique et un aspect juridique. Si l'aspect juridique, je dirais que l'honorable Clément Tankou, peut-être il n'a pas eu vraiment le temps de bien lire cette disposition. En lisant l'article 116 de la Constitution, Le législateur est trop clair. Quand vous lisez ça, vous allez constater que le Sénat, il n'a pas violé cette disposition. Parce que cette disposition dit ceci, que les deux chambres peuvent convoquer une session extraordinaire. Il n'a pas limité combien de fois qui peuvent convoquer cette session extraordinaire. Il n'a pas limité. Même la disposition des règlements d'ordre intérieur du Sénat, moi je vous parle, M. Perrault, en tant qu'avocat et en tant qu'assistant parlementaire. Quand vous lisez cette disposition, vous allez constater que c'est clair. Mais je comprends qu'il y a un débat que le juriste cherche seulement à soulever, mais la disposition est trop claire. Donc, si le pas de droit, ça ne pose pas un problème. Et je crois que la Cour constitutionnelle, il va très bien constater qu'il n'y a pas eu la violation constitutionnelle. Et sur le plan, l'aspect politique, il y a un problème, hier. Nous devons avoir le courage de dire des choses. Il y a un problème, parce que la Cour constitutionnelle doit constater que même les calendriers que la CNE nous a proposés, mais ce calendrier-là n'est pas réaliste. Même si c'est ça qui va se référer pour promulguer par le président de la République. Mais il y a maintenant un problème de temps. Alors, d'où la Cour constitutionnelle est constatée renvoyer ces élections municipales et qu'on puisse organiser les élections provinciales et présidentielles. Alors, ce qu'on va poser, parce que même au niveau du Parlement, ici, ça se pose toujours des débats sur cet aspect-là, l'aspect politique. Et cet aspect, j'encourage même l'honorable Kankou d'aller jusqu'au bout de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que cette élection ne puisse pas avoir lieu à son part. Parce que ça risque de nous attarder. Voilà ma contribution que je voudrais
par rapport à ça. Patient, vous avez évoqué la question de l'interprétation des articles. Maître Omar le disait tout à l'heure que chacun, on sait chaque fois quand nous organisons les débats autour des articles, chacun a sa perception, son interprétation. Il reste aux juristes, membres de la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez dit, de pouvoir se prononcer. Nous, on ne pourra pas entrer dans ces débats. C'est, chacun sait comment il interprète la Constitution. Mais vous estimez quand même que sur le plan politique, il y a des problèmes qu'il faudrait regarder en face, parce que là, on est en difficulté de pouvoir respecter le calendrier tel qu'il a été à publier et toutes les dates comme prévues, et ça risque de retarder plus la tenue de ces élections locales, municipales et communales, selon votre analyse. Mais il reste un débat sur l'aspect juridique, comme on le disait tout à l'heure. Il reste à la justice de pouvoir se prononcer. Merci beaucoup, maître. Et Joséphine, vous nous appelez de Boston, aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir appelés. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Merci pour m'avoir donné la parole. Je vais dire ceci. Je vais commencer par un exemple. Parce que vous savez, le Congo, il y a de gros mots. Il y a de gros mots quand il s'agit d'un problème de public, d'un problème de la population, d'un problème de l'État, parce que l'État c'est nous tous, on commence des gros mots. Ok, ce que je vais dire, mon exemple que je vais donner, le Congo c'est comme une famille avec papa et maman. Maintenant le papa, il est là, il travaille quelque part, il part à 7 heures et il rentre à 16 heures. Chaque jour, il est là à la maison. Mais quand, le temps de quand il va au travail, il va quelque part, il a une autre femme. Pas même une, il y a deux, trois femmes en dehors de la femme de la maison. Il fait les enfants là-bas. Mais il rentre à 7 heures, il rentre à 16 heures à la maison. Mais un jour, le papa là tombe malade à l'hôpital. Et maintenant, la maman va à l'hôpital pour le rendre visite. Il trouve d'autres femmes là-bas, à l'hôpital. La maman pleure. Il dit, non, mon mari part à 7 heures et il rentre à 16 heures. Où est-ce qu'il a trouvé ces femmes ici et tous ses enfants? C'est ça l'exemple. Que ceux-là qui vont comprendre mon exemple, qu'ils comprennent. Maintenant, si je dois rentrer vraiment dans les sujets d'aujourd'hui, vous savez, hein, toute chose restant égale par ailleurs. Le président Kabila, en tant que président de Congo, il peut rester aussi 32 ans au pouvoir. Toutes choses restant égales par ailleurs. La raison, on la trouve toujours. Mais je demanderai au gouvernement de respecter la population, de respecter les lois. La loi, il n'y a pas à dire que non, on est en train de ne pas respecter la loi proprement. La loi, si on ne la respecte pas, c'est déjà sale. On respecte. Quand tu dis non, j'ai respecté, je n'ai pas respecté la loi, mais c'est propre. Il n'y a pas, tu n'as pas respecté la loi, mais c'est propre. Le Congo est en train de fonctionner dans l'irrégularité totale. L'irrégularité totale. Mobutu venait toujours avec des raisons pour se maintenir au pouvoir. Mais le président Kabila peut aussi venir avec des raisons. Le Sénat est irrégulier. Le Parlement est irrégulier. Mais vous demandez, eux, ils demandent aujourd'hui au président de partir. Mais il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Il va rester parce que tout est irrégulier. Si le président Kabila est parti au pouvoir, il a pris le pouvoir en 2001, jusqu'aujourd'hui en 2015, il est toujours au pouvoir. C'est ça même l'irrégularité de Congo. Si on doit vraiment, écouter le pleur de la population, on doit s'arrêter, regarder derrière et prendre des responsabilités. Chacun de nous doit prendre des responsabilités.
Voilà. Et ce que vous avez dit, madame, vous estimez-vous que la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui, nous fonctionnons sur base de l'irrégularité, les Sénats, ils fonctionnent sur l'irrégularité, depuis tout le temps, on fonctionne sur l'irrégularité, mais vous considérez qu'il faudrait à un certain moment qu'on s'arrête, qu'on regarde derrière soi pour savoir où on va, d'où nous venons. Mais vous avez donné l'exemple pour ces papas avec une vie dissimulée, madame, laissez-nous vous dire, vous avez souhaité que chacun comprenne votre exemple, nous pensons que les auditeurs ont compris votre anecdote. Merci beaucoup, madame Joséphine, de nous avoir appelé de Boston aux États-Unis d'Amérique. Nous retournons en RDC, Olivier, vous êtes acupite dans la province de Kwilu. Bonjour Olivier.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez suivi comme beaucoup d'auditeurs sont revenus sur les aspects juridiques et politiques, hein, mais il y a notre ami Sylvain qui disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que les considérations politiques nous amènent à bafouer l'aspect juridique du respect de la Constitution, mais d'un côté, il faudrait, hein, certainement dans tous ces débats, qu'on se décide sur ce qui doit être fait pour arriver à respecter le calendrier, les échéances électorales telles qu'elles sont prévues, telles que beaucoup de gens le souhaitent. Pour vous, quelle doit être la démarche aujourd'hui, Olivier?
Oui, Pierrot, merci. Moi, je dirais d'abord ceci. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le premier pays à faire de la politique. Alors, il ne faudrait pas qu'on appelle politique, c'est tout ce qui est déviation. Mais déviation, ce n'est pas de la politique, c'est un peu de déviation. Parce que quand on fait la politique, la première attitude, c'est le respect des textes. C'est ça, les politiciens. Je fais la politique et ça se manifeste par le respect des textes. Nous sommes en train de dévier. Alors, je vais vous rappeler une chose, et c'est une phrase que François Mitterrand aimait bien répéter à tous les politiciens. Il disait ceci, la soif du pouvoir et la peur de le perdre sont plus fortes que la raison. Pierrot, voilà le grand problème. La soif du pouvoir et la peur de le perdre sont plus fortes que la raison. Alors, ça c'est un rappel. Maintenant, voici ce que je vais dire. Par rapport à la loi sur la répartition des sièges, Pierrot, admettez avec moi que les circonstances de l'adoption de cette loi discréditent toute la nation. Et je vais m'en prendre à nos sénateurs, parce que ce n'est pas normal. La première session extraordinaire, ils y sont allés en âme et conscience, ils ont décidé, ils ont écarté la loi en âme et conscience. Ils reviennent une deuxième fois parce qu'il y a eu des pressions à gauche, à droite. Ce n'est plus normal, Pierrot. Moi, je crois que des hommes qui se respectent, des hommes qui ont une indépendance d'esprit dans un Sénat ne peuvent pas agir de la sorte. Alors, il ne faut pas qu'on aille maintenant chercher dans les textes est-ce que la Constitution le permet. Non. Là, il faut maintenant voir l'indépendance d'esprit des sénateurs. Parce que s'ils ont fait ça aujourd'hui, demain, ils feront la même chose. Ils votent une loi ou ils la rejettent et une petite pression à gauche, ils reviennent. En tout cas, pour la population, c'est un manque de respect. Ça, c'est une chose. Alors, une autre chose, il est clair aujourd'hui que le calendrier ne sera pas respecté. Ça, c'est bien clair. Maintenant, nous devons éviter, nous devons limiter les dégâts. Et limiter les dégâts, ça signifie aller aux élections, éviter les distractions. Les dialogues, aujourd'hui, si nous le faisons, on va dialoguer sur quoi? Moi, j'ai vu le gouverneur du Bandundu qui est passé à Kikiche il y a quelques temps. Et dans les objets qui étaient inscrits, l'objet du jour pour les dialogues, il y avait l'argent viendra d'où? Mettons-nous vraiment autour d'une table. C'est à nous qu'il faut demander d'où viendra l'argent des élections. Ça, c'est une distraction. Donc, on ne doit pas dialoguer sur l'argent. Les textes sont clairs. Le calendrier ne sera pas expliqué. Ça, c'est déjà connu parce qu'il y a déjà des ratés. Mais nous devons nous comporter comme de grandes personnes. Et je dois vous dire que, aux yeux de la communauté internationale, excusez-moi le terme, les Congolais sont des idiots. Donc, nous ne devons pas nous le cacher. À l'extérieur, on nous traite comme des idiots. Ce n'est pas normal. Voilà mon intervention.
Électeur Maïté, François pour Olivier, mais vous êtes excusé. Vous estimez que la manière dont nous traitons ces questions et la manière dont tout cela se déroule, ça donne une image négative avec un terme profond que vous avez utilisé tout en vous excusant, bien sûr. Mais vous estimez, Olivier, qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ne puisse pas tomber dans la distraction, vu les difficultés pour l'organisation des élections avec des ratés dans les calendriers, il faudrait qu'on regarde ce qui est plus nécessaire. Voilà, c'est autour de ces questions. Nous revenons à vous, Emmanuel Ilunga. Je crois bien, depuis que nous avons commencé à faire nos émissions autour du processus électoral, autour de là où on parle, on se rend compte que nous sommes, je peux dire, en faisant les constats, ensemble avec les auditeurs, qu'on est toujours au même point de départ, où tout le monde se rend compte qu'il sera difficile de pouvoir aborder les échanges comme il faut, mais personne ne dit de quelle manière on doit agir pour pouvoir s'en sortir, mais et pourtant, les mois sont en train de passer. C'est pourquoi j'ai revenu tout à l'heure sur la responsabilité de la classe politique, opposition, majorité, que ce soit la société civile, dans la manière dont il faudrait agir aujourd'hui pour pouvoir donner des garanties à la population sur la réussite du processus.
Mais la société civile, quels moyens la société civile a pour pouvoir donner des garanties? Aujourd'hui, j'expliquais la CENI, la faiblesse financière. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas les moyens. Je sais que nous voulons que ça soit, et la réalité qui est, il y a une grosse distorsion. Donc, je pense très sincèrement qu'il y a une très mauvaise volonté. Comme le monsieur d'Equipu qui vient de souligner, la peur de perdre le pouvoir et l'envie de le garder, c'est plus fort que la raison. Justement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, depuis qu'ils sont au pouvoir, élus, ils ont mis tout en œuvre pour rester au pouvoir, pas pour faire quelque chose pour changer l'avenir des Congolais et donner une nouvelle conscience, une nouvelle dimension pour qu'on aille de l'avant. Vous remarquerez qu'entre 2006 et 2010, nous nous sommes posé le même problème. Nous sommes allés aux élections finalement en 2011, nous nous posons toujours le même problème. Donc il y a une question des compétences, il y a une question de bonne volonté, et je pense que le pays a besoin des hommes, des grands hommes, a besoin des hommes qui ont une imagination, qui ont de l'envie d'aller de l'avant, de croquer le progrès. Le pays n'a pas besoin de petits hommes qui ne pensent qu'à à un avenir proche, familial, ma famille, ma femme, mes enfants. Non, le pays a besoin des grands hommes. Et pour avoir ces grands hommes, aujourd'hui, dans l'état actuel du Congo, voilà notre proposition, c'est que nous acceptons les dialogues. Nous acceptons de nous mettre autour d'une table. Quand une maison brûle, il est nécessaire d'appeler tout le monde au secours. Nous nous mettons autour d'une table, nous discutons. Mais sur quoi nous devons discuter?
Et c'est là, effectivement, où même au niveau de la population, chacun dit, non, voilà, on doit discuter autour de quoi, c'est pas important, qu'est-ce qui doit être discuté, c'est ça même l'épineuse de question.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations que la population ne détient pas, notamment sur les faiblesses de la CENI. Il y a des problèmes des listes, les listes électorales ne sont pas mises à jour, il y a les problèmes des doublons, il y a les problèmes des enrôlements des jeunes qui ont aujourd'hui 18 ans, et qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans en 2011. Et donc, ces jeunes ne doivent pas être exclus des élections. Ils doivent voter, ils sont dans leur pays, ils sont chez eux. Ça, tout ça sont des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Nous pouvons discuter sur ces questions. Et puis, sur la faisabilité des élections, la CENI a fait un rapport technique qu'il a déposé au mois de juin. Quand vous lisez les rapports de la CENI, vous convainquez vous-même que la volonté, la bonne volonté n'existait pas au gouvernement pour apporter à CENI les solutions nécessaires de manière à organiser des élections libres et transparentes. Et toutes ces questions, je pense que ça doit être discuté autour d'une table. Ça, c'est d'accord. Mais d'aller dans les discussions pour dire, nous allons faire un glissement pour, comme certains le disent, accorder 3, 4 ans, 5, 6 ans, on peut même accorder 100 ans. Mais s'il n'y a pas de volonté de changer, ça ne changera rien. Voilà, donc le problème n'est pas d'accorder des années à quelqu'un, le problème c'est de jeter des bases solides pour que les pays impersonnalisent des institutions. C'est, le problème il est là, impersonnaliser le travail que nous faisons. Alors, les hommes, les grands hommes, écoutez, sont au cimetière, ceux qui sont indispensables. Ceux qui sont vivants sont tous dispensables. Mais en tout cas, ceux qui sont indispensables sont déjà partis. Et donc, je pense que En faisant la synthèse de toutes les interventions, j'ai lu entre les interventions de tous les auditeurs des frustrations, des souffrances profondes de la manière dont nous sommes considérés sur le plan international comme des enfants. Je suis totalement d'accord avec notre auditeur, alors que nous ne sommes pas des enfants. Nous avons tout simplement un pouvoir qui ne veut pas comprendre le sens où veut aller la population. Le pouvoir ne veut pas comprendre, le pouvoir laisse la population, je dirais, au bord de la rue. Les Congolais, je donne un exemple encore, les Congolais sont maltraités par les Chinois, les Indiens, les Libanais, ils ne les considèrent pas, alors qu'ils sont dans leur pays en train d'y travailler, d'y gagner de l'argent. Mais ils n'ont aucune considération
sur mais ça sont des questions, voilà. Quand mais les uns et les autres qui voudraient bien accéder au pouvoir puissent, aux élections, proposer leur projet de société, leur piste de solution aux Congolais, on pourra voir comment cela peut être possible avec les élections. On va revenir à vous, pourvu, bien sûr, qu'on trouve des mécanismes de sortie pour qu'on ait ces élections apaisées. Rosiane, vous nous appelez Bissiro, c'est dans la province de Ouélé, je crois bien, Rosiane, bonjour.
Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassi.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres, comme je le disais tout à l'heure, depuis que nous avions eu plusieurs, on organise les débats autour de ces processus, on s'est rendu compte qu'on revient sur les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes constats, mais qui, malheureusement, on ne sent pas les gens prendre la responsabilité pour dire, voilà, nous avons remarqué, nous avons posé les diagnostics, maintenant nous devons trouver des solutions pour aller de l'avant au diable. Qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, je crois que, comme vient de souligner tous les autres auditeurs, le problème reste le problème d'homme. C'est tout simplement l'absence de la volonté politique, comme l'a souligné certaines personnes, et l'amour patriotique. Si nous tous, nous aimons le Congo, nous devons travailler pour l'avancement, pour le développement de ce pays et pour la paix dans ce pays. Mais malheureusement, certaines personnes pensent qu'il faut créer le chaos, il faut semer les troubles pour en profiter. C'est ce qui pose problème. Et on n'a pas le même attendement sur l'avenir de notre pays. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en fait, ça fait plus de 4 ans que tout le monde sait pertinemment que en 2015 et 2016, on va organiser les élections. Mais je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est le moment de se réveiller pour dire que non, voilà, tel aspect ne va pas, et ceci et cela. Et pourquoi on a créé ce qu'on appelle les concertations nationales, au lieu d'aller tout droit au dialogue national? Parce que ce dialogue, si c'était un dialogue national, on allait déjà baliser les chemins pour les élections qui pointent à l'horizon. Mais on a évité le dialogue pour les concertations. Concertation qui n'a fait que regrouper les gens de même obédience pour contourner le vrai problème. Est-ce qu'on a résolu le problème? On n'a pas résolu le problème. Est-ce que c'est maintenant le temps de résoudre ce problème? Ou est-ce qu'on cherche d'abord à résoudre le problème? Ou on cherche plutôt à créer d'autres problèmes? Parce qu'à mon avis, ce qui préoccupe les régimes actuellement, c'est tout simplement d'aller progressivement vers le glissement et non résoudre les vrais problèmes des élections. Et si c'est ça la préoccupation majeure, de glisser, de nous amener vers les élections incertaines, ça n'a pas de sens d'aller au dialogue. Parce que la CENI, qui est la structure organisationnelle des élections, devrait, en principe, fédérer toutes les parties prenantes aux élections pour qu'on trouve la solution autour de la CENI. Mais on évite la CENI, on crée plutôt un dialogue politique qui va nous consommer tout le temps possible et qui ne va pas résoudre le problème, parce que dans ce dialogue, les uns vont avec l'idée de glissement, les autres vont avec l'idée de statu quo, et ça ne va pas résoudre le problème. Et vous voyez, même pour le problème de médiateurs, certains parlent d'un médiateur national et d'autres un médiateur international, et ils ne vont jamais se mettre d'accord autour des médiateurs. Et ils ne vont jamais se mettre d'accord sur le point à traiter lors de ce dialogue qu'on peut appeler dialogue inter-congolais bis. Ça, c'est un problème. À mon avis, laissons la tâche à la CENI pour que les acteurs politiques se retrouvent autour de la CENI, voir ce qui est faisable. Est-ce que le pays est à même d'organiser les élections crédibles dans les délais constitutionnels ou non? Il y a quel problème? C'est le problème d'argent. C'est quel problème s'il y a un problème d'argent? Les élections locales, on n'a qu'à repousser ça en 2017, et puis on organise les élections qui sont constitutionnelles. Les autres peuvent organiser après. Mais on ne veut pas de cela. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je ne comprends absolument rien. Et les Congo ici, la population souffre, je vous dis. Franchement, la population souffre. Et on ne se préoccupe pas du social de la population. Mais il faut plutôt créer des zizanies pour qu'on aille aux élections dont on n'est même pas sûr de son issue, de son organisation, de sa crédibilité.
On a suivi au-delà de votre inquiétude, vous dites là, on sent ces pessimistes que vous avez, vous dites que les gens veulent évoquer le dialogue pour des questions de glissement, cela veut dire qu'on a une façon de pouvoir aller au-delà du mandat fixé par la Constitution, les autres veulent le statu quo, et vous, en tant que population, vous dites que dans ces conditions, vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir, mais vous estimez qui est le cadre fédérateur qui devait permettre aux uns aux autres de discuter par rapport à ces questions, c'est au niveau de la CENI, mais l'importance de la discussion est vraiment fondée, il faudrait qu'on y arrive. Manuel Ilunga, vous avez suivi les uns et les autres, il y a deux derniers auditeurs qui sont sur les antennes. La question de la perception, elle est vraiment réelle, des intérêts de chacun, ce qu'il vise, parce que tout à l'heure, Ojan venait de dire qu'on ne devait pas se mettre aujourd'hui à débattre encore sur ce que nous devons faire, on l'aurait fait depuis longtemps, parce que les mêmes questions, on les a posées en 2006, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis, en ce moment, votre point de vue par rapport à ce qui venait d'être dit par les compatriotes.
Bon, tout d'abord, moi, je suis fier de mes compatriotes, parce que je leur remercie déjà. Je vois la qualité des réflexions de tous les intervenants, c'est le niveau de compréhension, parce que le pouvoir, les gens qui sont au pouvoir, pensent que les Congolais sont naïfs, et en les entendre parler, je comprends, j'ai l'espoir que ma population n'est pas aussi naïve qu'on peut le penser. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir, et nous avons une population de qualité. Et donc, toutes les interventions sont allées dans le même sens, dans le sens de condamner fermement la gestion du pays. En gros, c'est ça en résumé. La gestion qui n'est pas bonne des affaires du pays, les uns crient à la souffrance que la population souffre, les autres crient au désordre, et les autres crient à la mauvaise foi du fait que la CENI n'est plus capable d'organiser dans les termes requis les élections. Et donc, moi je suis attristé de voir que 50 ans après, avec toutes les expériences que nous avons du passé, les 32 ans de mobutisme ne nous ont pas servi d'exemple. Et nous répétons la même chose, voire pire. Et donc, j'ai craint que la population puisse prendre de très mal ce qui se passe. Et vous savez, c'est des souverains premiers. Il faut l'écouter. Il faut prêter beaucoup attention à ce que la population dit, parce que c'est important. Quand on est devant une population, on est là pour eux, pas pour soi. Sinon, il faut choisir un autre métier.
Mmh. On écoute rapidement Franck. Docteur Franck, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur le journaliste. La CENI n'est pas en difficulté
d'organiser les élections. Parce que la CENI organise les élections, ce sont les affaires des politiques. Mais nous sommes en train de regretter, au lieu que les politiques d'aujourd'hui préparent comme ils ont préparé en 2011 les élections, et les prétextes qu'ils sont en train de présenter, ce sont les prétextes qui sont forts. Et si la CENI serait en difficulté de ne pas organiser les élections, le comité de la CENI pouvait démissionner. C'est une doctrine de la démocratie lorsque vous êtes incapable de réaliser ce qui est comme devoir à rendre à la nation, vous démissionnez. Et de même, nous pouvons demander aux politiques sociaux. Ne sont pas en mesure d'emmagasiner quelque chose pour que la CENI puisse rendre service, ils attendent la fin du mandat en 2016, ils démissionnent aussi. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'aller au dialogue. Non, il y a des dialogues, il y a ceci. Aussi, maintenant, pour que nous puissions aller au diagnostic, il fallait consulter. Si vous consultez, vous n'avez pas la réponse.
Alors, pour vous, docteur Franck, parce qu'il y a deux personnes qui vont encore s'exprimer, on n'a que 45 secondes à chacun. Vous estimez que la CENI, si elle se sent dans l'incapacité de pouvoir trouver des solutions, tenir les élections dans les délais prévus, qu'elle n'a qu'à prendre la responsabilité de dire qu'on est incapable de le faire en démission, et vous souhaitez aussi que la démission soit étendue aux membres des institutions qui vont arriver pour constater qu'on n'est pas en mesure de pouvoir assumer, alors qu'on démissionne, c'est votre proposition. Merci beaucoup, Dr. Franck, de nous avoir appelé des Kindou. On retourne ici à Kinshasa, nous avons deux auditeurs, Félicien et Bénin, dommage, chacun, 45 secondes. Vous avez suivi les uns et les autres, Félicien. Pour vous, quelle est la voie de sortie par rapport à toutes ces tractations? Rapidement, en 45 secondes, Félicien.
Oui, la voie de sortie, Pierrot, je regrette, j'ai passé du temps pour développer ce que j'ai. La voie de sortie, c'est justement aller au dialogue. Le dialogue devait être compris comme les compléments de la conférence nationale. Donc, la conférence nationale n'avait pas abouti et maintenant nous devons aboutir par là. Parce que si nous sommes là où nous sommes à cause de la classe politique congolaise, nous n'avons pas une classe politique qui est patriote, qui peut aider le peuple à sortir de cette situation. Et surtout, nous n'avons pas une opposition qui peut nous aider, parce que l'opposition a joué un mauvais rôle depuis toujours. Depuis le 2011, et car c'est la crise que nous avons aujourd'hui, date de 2011, l'opposition a accompagné la majorité à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'opposition a accompagné la majorité dans l'article sur le mandat présidentiel, et ils ont changé cet article. L'opposition est en train de demander le calendrier global, alors qu'on devait faire des élections présidentielles seulement, et les puis le reste, celui qui passe pouvait les compléter. Cette opposition qui n'a pas d'idéal, qui n'a comme idéal que son ventre, nous a amené là où nous sommes. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des agitations, des gesticulations seulement pour faire dormir la population. Mais vraiment, nous pensons que ce dialogue soit une occasion de sortir des crises, une occasion de baliser les chemins pour l'avenir.
Merci beaucoup, Félicien Bénin. Vous êtes à Kinshasa, on termine avec vous. Félicien pense qu'il y a la responsabilité partagée au niveau aussi de l'opposition, où les gens se sont plus battus pour leur ventre que pour l'idéal du Congo. Il faut dialoguer pour trouver, baliser le chemin. Alors Bénin, pour terminer cette émission aussi, en 45 secondes, votre proposition par rapport à ce qui a été dit depuis le début de cette émission.
Mais c'est Félicien a raison. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que tous les auditeurs n'ont pas eu le courage de dire.
Allez-y.
Nul n'ignore que le président Kabila a envie de rester au pouvoir, et nul n'ignore aussi que l'opposition et la constitution, surtout la constitution ne permet pas, et nul n'ignore aussi que l'opposition fait qu'il saute une fois du pouvoir, ce qu'ils appellent l'alternance. Voilà maintenant, nous avons un fait devant nous, c'est le dialogue convoqué par le président Kabila. Allons dans ces dialogues, parce que M. Pelletier a dit l'opposition n'est pas responsable. Il ne suffit pas de vouloir que le président Kabila quitte au nom de la constitution, de l'alternance, mais il suffit aussi qu'ils rassurent la population qu'une fois Kabila parti, ils sont capables de s'organiser, de faire quelque chose. Le président Kabila est deux fois candidat, l'opposition aussi.
toutes les fois où il y a les élections, il y a les membres des oppositions qui sont candidats. Vous savez pourquoi ils n'ont jamais gagné? C'est parce qu'ils ne sont pas unis et chacun veut devenir président et une fois Kabila quitte tout ça. En 2011, ils ont perdu la chance de gagner parce qu'ils sont partis nombreux, alors qu'ils devaient laisser peut-être Tshisekedi lui-même. Le peuple congolais continue un peu à mourir et à être déçu de l'opposition.
Merci, merci beaucoup.
Allons au dialogue. Les termes ne sont pas à ignorer. Le terme, c'est que tout le monde sait que le président Kabila veut rester au pouvoir. Il commence à faire des choses un peu rapidement là vers la fin.
Mais ça aussi, Bénin, il faut.
Alors au dialogue,
l'impression.
S'il va dire que laissez-moi travailler. Entendons-nous, il y a transition, on verra ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Mais le problème maintenant, c'est que l'opposition a une très grande responsabilité.
Des pouvoirs s'organiser pour effectivement des conditions vraiment une alternative crédible. Merci beaucoup Bénin, mais il reste comme l'a disait tout à l'heure Michel de Matadi, que j'ai l'impression, c'est l'impression que vous avez que le président veut rester au pouvoir. C'est un jugement que vous avez, mais il reste à ce que ce soit dit officiellement par le président lui-même. Vous vous estimez qu'il faut aller au dialogue et que l'opposition doit constituer une alternative crédible. On revient à vous demander Lunga parce qu'il faut conclure. Et ça c'est vraiment un point important, c'est que Bénin venait de dire qu'au niveau de l'opposition, qu'on ait quand même une alternative crédible qui doit être proposée à la population. En grande ligne, comment doit se construire cette alternative crédible de l'opposition?
Les deux auditeurs, les deux derniers, ils ont raison, je dirais à 80%. Et l'opposition a montré un visage malheureux du fait déjà de la multiplicité des candidats. Donc au jour d'aujourd'hui, l'opposition doit se ranger en un seul bloc et avoir un même discours, quitte à, de manière informelle, trouver un porte-parole de l'opposition. C'est le travail que moi je fais personnellement, j'essaie de rencontrer l'ensemble des opposants pour pouvoir dialoguer. Et c'est samedi d'ailleurs, nous nous rencontrons à Fatima avec beaucoup des partis politiques pour discuter de la question. Mais là où je ne le suis pas, M. Félicien, c'est quand à dire que les opposants, ils travaillent pour leur ventre. Et jeune Diomi Dongala, il est en prison. Et Ouanga, il sort de la prison. Donc, jeter en pâture comme ça l'ensemble...
C'est pas l'ensemble de l'opposition.
C'est pas l'ensemble de l'opposition. Donc, il doit nuancer ses propos. Il y a des opposants qui ne sont là que pour leur vente. Nous sommes d'accord. Mais il y a des opposants qui se battent avec l'amour de la nation, l'amour de la patrie, dont moi j'en fais partie. Donc, je ne me reconnais pas dans ces derniers propos, mais sur l'ensemble de ces propos, je suis d'accord. Ceci étant, au jour d'aujourd'hui, nous voulons les élections libres et transparentes. Pour ce faire, nous sommes sûrs et certains que la CENI n'a pas les moyens d'organiser les élections du fait du manque des moyens. Comme il manque les moyens, on essaie de créer les dialogues. Nous sommes pour les dialogues. Mais les dialogues ne vont pas discuter sur des textes constitutionnels. Nous allons retourner sur l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoit un médiateur international. Et nous allons prendre toutes les grandes lignes qui sont dans l'accord cadre pour pouvoir mener ces dialogues, pas pour accompagner une personne à faire une transition ou un glissement comme certains le pensent, mais pour que le Congo sort gagnant.
Par rapport aux élections?
Par rapport aux élections, nous voulons des élections, mais nous savons pertinemment qu'en 2016, avec ce que nous avons aujourd'hui comme élément, il est difficile d'organiser les élections en 2016. Les dépôts de candidature, c'est dans moins d'un an, au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, presque le mois de septembre. Donc, on voit que la faisabilité, elle est difficile, on ne va pas se mentir. Et donc, c'est pour ça que les dialogues s'imposent. Mais un dialogue sincère pour compléter, justement, la CNS, comme venait de dire notre compatriote, je n'avais même pas pensé à ça. Mais ce qu'il dit, il faut parachever, justement, le travail qui a été commencé. Il faut le parachever aujourd'hui pour aller dans un dialogue sincère. Et la population sait.
Merci.
On connaît des opposants opportunistes. On connaît des opposants qui se battent très sincèrement, parmi lesquels nous sommes.
Merci beaucoup, Emmanuel Lunga, président de l'Action républicaine pour le progrès. Vous avez été avec nous dans cette émission. C'est un plaisir aussi à écouter tous les compatriotes qui se sont exprimés. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission du Mantangou à la mise en onde. Julie Fézabongonda, la réalisation. Pierrot et la mienne, je vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain à 11h30, heure de Kinshasa. Ça, mais l'émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.